Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et un nouveau volume qui vient de paraître dans la collection Le Bien Commun. Il est consacré à un auteur, économiste, philosophe sur lequel vous souhaitez attirer notre attention ce matin.
Oui, il faut vraiment recommander aux auditeurs cette collection publiée chez Michalon, Le Bien Commun. Au départ, son directeur, notre confrère de France Culture, Antoine Garapon, lui avait donné pour objectif de résumer l'œuvre des grands penseurs du droit. Mais petit à petit, l'ambition de la collection s'est élargie. Et elle vous livre à présent, en de brefs volumes de 125 pages, l'essentiel de ce qu'il faut savoir de la pensée de nombre de grands auteurs de la philosophie politique. Or, vient de paraître, au bien commun, un résumé très recommandable de la pensée de Friedrich Hayek, dû à un spécialiste de ce qu'on appelle l'école autrichienne, Thierry Aymard. Cet auteur, je signale, a été le 14 mai l'un des invités de l'émission Entendez-vous l'écho, notre émission de France Culture consacrée à l'économie, présentée tous les jours de semaine entre 14 et 15 heures par Tiphaine de Roquigny. Mais commençons par un détour par Adam Smith. Celui-ci doit sa gloire, on le sait, à son livre de 1776, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. Mais l'économie était alors encore loin d'être constituée en discipline universitaire. Les matières qu'Adam Smith a enseigné dans sa jeunesse à l'université de Glasgow ont été successivement la logique et la philosophie morale. Et l'ouvrage de sa plume qu'il considérait comme le plus important, c'était sa théorie des sentiments moraux publiée en 1759. Alors il est frappant de constater que son lointain successeur Friedrich Hayek, penseur libéral et global comme Adam Smith, ait réellement entamé sa carrière d'économiste par un livre de psychologie qui s'appelait « L'ordre sensoriel » qu'il a publié en 1952. C'est comme si ces deux grands économistes avaient éprouvé le besoin de comprendre le fonctionnement de l'esprit humain afin de pouvoir développer leurs hypothèses concernant les mécanismes de l'échange. Mais Adam Smith explore ce qu'il appelle l'homme intérieur, capable selon lui de juger impartialement la valeur morale de ses propres actes et de s'identifier aux autres, au point de partager en partie leurs sentiments, alors que Friedrich Hayek, lui, met en évidence tout ce que le sujet ignore de lui-même, ce qu'il appelle la carte présensorielle. Une bonne part de nos processus mentaux demeure inconscient, dit-il, et les neurosciences l'ont depuis confirmé. Hayek nous invite à prendre conscience de nos propres limites à cet égard.
Et ses positions dans le domaine de l'économie politique, Brice, sont inspirées par la même prudence.
Eh oui, si nous ne pouvons appréhender qu'une partie émergée des motifs qui nous déterminent à agir, comment une quelconque autorité pourrait-elle prétendre connaître les buts poursuivis par tous les individus composant une société afin de les harmoniser entre eux? Il y a là une présomption fatale, pour reprendre le titre d'un de ses livres. Oui, la grande idée de Friedrich Hayek, c'est qu'aucun cerveau humain, ni aucune institution, ne sont capables d'intégrer la totalité des besoins, des préférences et des désirs des individus composant des ensembles sociaux aussi complexes que nos nations modernes. D'autant que dans ces sociétés, comme l'écrit Hayek, je le cite, « il a été donné aux hommes un sens tout nouveau de leur pouvoir sur leur propre destin ». Oui, la société libérale est en effet fondée sur la possibilité donnée aux individus d'échapper à des systèmes rigidement hiérarchiques où la place dans la société, le rang, était défini a priori, où, je cite, « des liens traditionnels et obligatoires » entravait l'activité quotidienne. Oui, les énergies ont été libérées et dans ces conditions, prétendre organiser la production et la distribution des biens de manière rationnelle et centralisée, comme en rêvent les socialistes depuis Auguste Comte, est une dangereuse illusion. Pour citer Thierry Aymard, il est impossible de réguler par le haut une société multiple composée d'individus subjectifs. Pire, une société dirigée, c'est une société limitée aux valeurs et aux capacités cognitives de ceux qui la dirigent. Le résultat est une perte d'efficacité d'ensemble. Fin de citation. L'ennemi numéro un de Hayek, c'est ce qu'il appelle le constructivisme. Et il le voit pleinement à l'œuvre, tant du côté du fascisme que du communisme. Mais nos sociétés soi-disant libérales y sont également partiellement engagées, selon lui. Alors pour lui, le meilleur ajustement possible entre les activités économiques est obtenu par la concurrence entre les acteurs et non par les décisions souveraines d'une autorité surplombante. Mais attention, pour fonctionner, la concurrence doit s'appuyer sur des institutions organisatrices, la monnaie, les marchés, etc. Et surtout, un cadre légal adéquat qui protège la propriété et rend les propriétaires responsables des dégâts éventuels causés à autrui. En outre, je cite Hayek, il faut faire intervenir l'autorité chaque fois qu'il est impossible de faire fonctionner la concurrence, car la tendance spontanée du capitalisme favorise précisément la constitution de monopoles. Alors certes, des ordres construits sont nécessaires, convient Hayek, par exemple l'ordre politique, mais dans le domaine économique, il faut laisser prospérer l'ordre spontané du marché, parce que c'est une force impersonnelle et anonyme. L'État, pour demeurer impartial, doit se contenter de fixer par la loi des règles générales. Elles serviront de cadre à l'action des individus qui y inscriront leurs projets particuliers.